Les interrogations au sujet de l'existence de Dieu ont toujours fait partie de la vie de l'homme. On trouve Dieu un peu partout dans l'histoire, sous différentes formes. Hein. On n'avait forcément pas toujours un rapport direct avec le Dieu de la Bible, hein, forcément. Même notre homme postmoderne, puisque nous ne sommes plus dans la modernité, mais dans la postmodernité, l'homme contemporain d'aujourd'hui n'échappe pas à la règle et ses questions font écho à celles posées au cours des millénaires l'ayant précédé. Si Dieu existe, pourquoi ne se montre-t-il pas ? Pourquoi ne se rend-il pas plus manifestement présent ? Si Dieu existe, grand classique, pourquoi tant de mal et de souffrance ? L'intégration n'est pas neuve et même la Bible s'en fait l'écho. Il y a peu de gens qui savent ça, mais au travers entre autres du prophète Ésaïe, qui affirmait déjà avec beaucoup d'assurance en son temps, « Tu es vraiment un Dieu qui te cache, toi le Dieu d'Israël, sauveur. » Alors le prophète, dans le contexte, tentait probablement par ses paroles de trouver des circonstances atténuantes au peuple d'Israël qui se fabriquait des idoles qu'il pouvait par définition toucher, voir. Ben oui. Et Ésaïe dit « Oui, c'est vrai qu'ils sont idolâtres, Seigneur, ils se fabriquent des idoles, mais c'est vrai aussi que tu as un Dieu qui se cache, qui est invisible. » Tous les peuples autour d'Israël à l'époque, et même avant, ils avaient tous des idoles qu'ils pouvaient toucher, qu'ils pouvaient voir. Et le Dieu d'Israël, le vrai Dieu, lui, est pur esprit, il est invisible, donc ça ne facilitait pas le rapport à la divinité à l'époque. Cette parole serait donc potentiellement une sorte de petit reproche fait à Dieu par son prophète de ne pas suffisamment se montrer, justement. Mes amis à Ésaïe avaient également remarqué que l'absence, je le mets entre guillemets, de Dieu revenait à livrer l'homme à ses plus bas penchants. Plus Dieu se retire ou semble absent, plus l'homme est livré à ses dérives. Le thème du Dieu qui se cache est un thème récurrent dans le livre d'Ésaïe. On pourrait donc dire à partir de cette thématique qu'au contraire de ce que beaucoup pensent, l'omniprésence d'horreur commise par l'homme en ce monde est une preuve du retrait partiel de Dieu et donc aussi de son existence, puisque s'il y a retrait, c'est qu'il y a existence. Un verset toujours dans Ésaïe, 59, versets 1 et 2. « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Le péché occulte la capacité qu'a l'homme de discerner Dieu, entre autres dans la nature. » Tout est un accident. Je me rappelle encore de cette interview d'un des plus grands astrophysiciens actuels, un Français, et qui parlait du Big Bang, donc de ce moment X où l'univers est venu à la naissance. Et le journaliste scientifique dit « Oui, mais qu'y avait-il avant cet événement-là, avant ce premier moment ?» Et l'astrophysicien, qui n'est pas croyant, qui n'est pas chrétien, a dit « Ça, vous demanderez aux théologiens et aux philosophes, hein, parce qu'avant ce qui existe, ben, il y a Dieu. » Il dit « Mais moi, je ne suis pas capable d'en parler, puisque moi, je n'y crois pas. » Ce qui empêche cet astrophysicien d'en arriver logiquement, empiriquement, au fait que quelqu'un a créé tout ça, peu importe la façon dont il l'a fait, ben, c'est son propre aveuglement. Il n'empêche, l'argument que je viens de développer à partir de ces deux petits textes d'Ésaïe, il y en a d'autres, hein, je les ai mis dans les notes, cet argument théologico-biblique ne va pas convaincre grand monde. En fait, aujourd'hui, il convainc absolument personne. Vous essayez à partir de ces textes de convaincre quelqu'un de l'existence de Dieu, je vous assure, vous n'y arriverez pas. Pas plus non plus, et le cantique qu'on vient de chanter, en tout cas qu'on vient d'écouter, le rappelait, quand Jésus dit que celui qui cherche trouve, dire ça à quelqu'un, ça ne va pas suffire non plus à le convaincre que Dieu existe, puisque cette petite phrase de Jésus implique aussi que cette personne va devoir se mettre en marche pour rencontrer Dieu. Il va devoir faire sa part du travail pour rencontrer Dieu. La chose demeure donc inchangée. La transparence, l'absence apparente ou le silence de Dieu, comme l'appellent certains, reste un souci majeur pour beaucoup. Au mieux, les hommes qui ne croient pas en Dieu disent « Mais s'il existe, il n'a qu'à se montrer, en fait. » Mais il ne le fait pas. En tout cas, pas comme l'homme l'attend. Mais j'anticipe. Au Moyen-Âge, je ne sais pas si vous le savez, je crois que j'ai fait référence à ça dans un autre message, mais et c'est toujours valable aujourd'hui dans les procès dits de canonisation, dans l'Église catholique, quand on veut déclarer quelqu'un saint, un homme, une femme, il y a un procès en canonisation. Et comme dans tous les procès qui se respectent, il y a un avocat de la défense, qui va tenter de prouver que cet homme ou cette femme est digne d'être élevé à la dignité de saint, et puis un avocat de l'accusation qui va plaider pour que cet homme, cette femme ne soit pas élevé à la sainteté. Et cet avocat de l'accusation, on l'appelle l'avocat du diable. C'est de là que l'expression vient. Je vais donc faire l'avocat du diable. Les mauvaises langues diront que ça me va très bien et que ça me vient assez naturellement. L'acte d'accusation pourrait quant à lui se résumer comme suit. C'est l'acte d'accusation ce matin que je vous propose. Pourquoi Dieu n'est-il pas plus visible s'il existe ? Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que les chrétiens que nous sommes vivent dans le même monde que ceux et celles qui ne croient pas en Dieu. Ça vous aurez remarqué. On n'est pas dans un, pour l'instant, on n'est pas dans une sphère à part. On vit les mêmes choses dans le même monde. Nous connaissons en gros les mêmes joies et les mêmes souffrances. Rappelez-vous dans l'Évangile, la tour de Siloé qui s'effondre sur des centaines de personnes faisant des dizaines de morts. Ben, Jésus dira à ses disciples qui demandaient l'explication pourquoi de bonnes personnes étaient écrabouillées et mortes par cet accident. Jésus contre-intra dit, il pleut sur les bons comme sur les mauvais. C'est parce qu'il y avait des gens plus méchants que d'autres. Donc ce n'est pas spécialement les plus pourris et les plus méchants qui vont mourir dans des catastrophes naturelles. Il y a des gens super qui perdent la vie dans des accidents de voiture, etc. Avec mon bol, ça serait étonnant que je meure de mort naturelle. Donc nous connaissons en gros les mêmes joie et les mêmes souffrances. Nous avons ce monde et les souffrances qui nous sont liées en commun, mais il n'y a pas que ça. Tout comme c'est le cas pour la très grande majorité des incroyants, les chrétiens, sauf dans certains milieux extrêmes, les chrétiens ne prétendent pas avoir des visions, n'entendent pas des voix et n'expérimentent pas le genre de miracle qui pourrait prouver l'existence de Dieu de manière scientifique et empirique. S'il se manifestait plus souvent, ne fût-ce qu'à travers des miracles surnaturels, peut-être qu'à l'analyse, au bout du compte, on finirait par dire voilà, ces différents miracles, ces différentes manifestations de Dieu prouvent l'existence de Dieu. On sait par les miracles de Jésus que ça n'emportait même pas l'adhésion des chefs religieux de l'époque qui disaient croire en Dieu. Pourtant, Jésus en a fait des miracles. Ça n'a pas emporté la foi et la fidélité des gens. C'est intéressant quand même. Il s'est un peu montré du temps de Jésus Dieu. Ça n'a pas suffi pour convaincre qui que ce soit. Comme ceux qui ne croient pas, nous sommes en tant que chrétiens souvent troublés par la présence du mal et de la souffrance dans le monde et dans nos propres vies. C'est parce qu'on est chrétien et qu'on croit en Dieu qu'on ne va pas parfois être interloqué par le niveau de mal que est capable de produire ce monde. Le nombre de gens qui flinguent leurs gosses, par exemple, les parents. Alors tout le monde dit « oui, mais enfin aujourd'hui on est informé tout le temps ». Oui, mais écoutez, il y a 50 ans on était informé aussi, hein. Il y a 20 ans aussi, moi je trouve qu'il y a une recrudescence. Le gars, il rentre le soir, il flingue toute sa famille. Youpi. Les mères font parfois ça. Alors, mettez-vous à la place des enfants. Le seul endroit de sécurisation, c'est les parents. Plus maintenant. Hein. Même maman et papa sont capables de me tuer pendant mon sommeil. Hein. Le dernier en date, à coup de disqueuse. Hein. Enfin, ah oui, mais c'est vrai. Hein. À coup de disqueuse. Tu vois, moi, est-ce qu'on peut même avoir une pensée pareille? Mais tout va bien. Hein. Il n'y a pas quelque chose de diabolique qui se trame. Hein. Parfois aussi, ce qui empêche de croire en l'existence de Dieu, c'est l'attitude et la vie de ceux qui disent le représenter. On ne va pas faire des tonnes là-dessus, vous avez compris qui je parle. Si vous êtes chrétien, vous l'affichez et que vous êtes en dessous de tout en termes de comportement et d'amour et d'écoute et de patience et d'accueil, évidemment, vous n'allez pas aider les gens à voir Dieu, quoi, non plus, et à y croire. Mais ça veut dire aussi que l'Église ne peut pas par elle-même manifester de manière surnaturelle la présence de Dieu. On dit tous les dimanches matins que Dieu est parmi nous, mais personne ne le voit. C'est par la foi que l'on discerne ou pas cette réalité. Mais si vous affirmez ça à un non-croyant, lui, il ne captera pas cette réalité, parce qu'elle est invisible. Vous me suivez ? Donc même l'Église, quand il dit Dieu, et c'est l'enseignement du Nouveau Testament, hein, que l'Église est le corps de Christ, donc c'est dans l'Église qu'il faut chercher la présence de Dieu, la plupart des gens... Pourtant, certains d'entre nous choisissent encore et toujours de croire et de tout miser sur un Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas entendre, du moins pas dans l'acceptation habituelle du terme, et qu'on ne peut pas prouver. Vous vous étonnez après qu'on nous prend pour des cinglés. Mais c'est exactement ce qu'on vit et ce qu'on dit. Mais d'autres choisissent de parier qu'un tel Dieu n'existe pas, Voilà donc le constat, il est simple. Les eaux du lac semblent d'un calme olympien et pas de Dieu à l'horizon. D'accord ? Je donne un exemple. Jill Briscoe, c'est une dame qui existe, hein, une vraie dame. Femme de pasteur, enseignante elle-même et présidente d'une ONG venant en aide aux jeunes enfants livrés à la prostitution sur les trottoirs de Bangkok, c'est pas rien, était perdue à cette période de sa vie. Pourquoi Dieu ne faisait-il rien ? Pourquoi tant de prières restaient sans réponse ? Ça faisait des semaines qu'elle se battait avec le silence assourdissant de son Seigneur. Elle décida d'aller se promener près d'un lac, pas très loin de l'endroit où elle logeait. Elle s'assit et contempla les eaux paisibles de l'étendue aqueuse. Cette vision ramena un peu de sérénité dans son cœur et c'est alors qu'elle entendit sa voix. Jill, je vous le dis comme l'a vendu. Hein. Jill, oui Seigneur, vois-tu quelque chose bouger à la surface des eaux ? Non, rien Seigneur, c'est le calme plat. Comme les réponses à mes prières. Paf, pensant en tes dents. Jill, crois-tu qu'il y ait de la vie en dessous du calme apparent des eaux de ce lac ? Bien sûr, Seigneur, ça doit grouiller de vie. Il en va exactement de même dans ta vie avec moi. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien ou ne discernes rien que rien ne se passe, que je ne fais rien. C'est ta perception des choses qui est limitée. Pourquoi certains doutent-ils de l'existence de Dieu ? Alors je pense personnellement qu'il y a au moins trois raisons à ça. Trois doutes majeurs concernant l'existence de Dieu. On va attaquer un de ces doutes aujourd'hui et on fera les deux autres pour la prochaine fois. Premièrement, bon, j'ai dû trouver une façon de le libeller, voilà, il y en a d'autres. Hein. Premièrement, le manque de preuves. On manque de preuves quant à l'existence de Dieu. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de preuves de son existence ? On sait que les dinosaures existent parce qu'on a trouvé des fossiles, pas de fossiles de Dieu. C'est plutôt rassurant en ce qui me concerne. Hein. On réfléchit jusqu'au bout de la logique. On trouverait des fossiles de Dieu, on aurait un méchant problème. Alors, il y en a, bien entendu, des preuves de son existence, mais elles sont sujettes à caution et à interprétation aux yeux de ceux qui ne croient pas. Moi, je peux vendre que Dieu existe, je peux argumenter la chose, mais c'est une forme d'interprétation de ma part quand même. Mais ces interprétations demeurent néanmoins des amorces réelles devant mener à Dieu. Elles permettent quand même de se mettre en chemin. Je cite, hein, la création, dont c'est Paul qui dit en Romains 1, entre autres, hein, il y a d'autres passages, il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Vous croyez que ce truc parfait, nickel, et bon, les scientifiques vous diront que tout est réglé à au pire que la virgule. Hein. C'est pour la présence de planètes dans l'univers, c'est 1, et il y a 26 décimales derrière. Et les astrophysiciens disent vous bougez à une décimale, une seule, le Soleil est trop près ou trop loin, enfin tout se casse la gueule, pour le dire simplement. C'est une réalité. On voit les perfections invisibles de Dieu à travers son œuvre créatrice. On le voit. Qui le voit ? Ceux qui croient. Les autres ne le voient pas. Pour eux, c'est pur hasard. Alors, deuxième révélation importante, c'est la Bible. Bible en main, je peux démontrer à travers les textes de la Bible elle-même que Dieu se révèle à travers la Bible. Il y a Jésus, l'incarnation, c'est quand même une solide révélation de Dieu, c'est la plus forte, puisqu'il vient lui-même montrer qui il est. Et puis l'Esprit Saint, et l'histoire, et l'archéologie, qui dans la grande majorité des cas, confirme plutôt le texte, les textes bibliques, la véracité de la Bible. Pour dire qu'on ne croit pas simplement avec son cœur, mais aussi avec sa tête. Hein. Ça n'empêche pas de réfléchir, le fait de croire. Hein. Mais ça ne suffit pas. Donc la question reste posée. Si Dieu existe, pourquoi ne fait-il pas plus de bruit ? Si croire en Dieu, je l'ai dit dans ma prière en commençant, est la chose importante à ne pas louper pendant son expérience sur la terre, pourquoi ne rend-il pas les choses plus évidentes ? Pourquoi joue-t-il la cache-cache avec nous ? Pourquoi est-ce qu'il n'écrit pas, par exemple, comme certaines pubs pour les avions, à travers deux nuages, « Je m'appelle Dieu et je vous aime », par exemple. Il pourrait, hein ? Il ne fait pas. Vous regardez comme ça pendant toute votre vie, il ne fait pas. Alors, est-ce que Dieu est timide ? Est-ce qu'il est introverti ? Veut-il rester seul ? Qu'on lui foute la paix ? Je ne sais pas. Hein, c'est un beau vieillard. Hein, C'est un des plus grands athées de tous les temps. Bernard Russell. Ses livres sont très intéressants, n'empêche. Hein. Donc, c'est un des athées, je crois qu'il est décédé aujourd'hui, hein, les plus convaincus que la Terre est portée. Et un jour, il participe à un vernissage. À l'époque, il avait déjà 95 ans. Mais ça carburait toujours. Hein. Une jeune journaliste s'approcha de lui et lui dit « Vous êtes non seulement le plus célèbre des athées, mais aussi le plus vieux. Hein, » pas ça. Hein. « Que direz-vous à Dieu s'il existe lorsque vous vous retrouverez devant lui ?» Après votre mort, quoi. Et Russell a répondu « Je lui dirai, vous, monsieur, vous ne nous avez pas donné de preuves suffisantes de votre existence. » Alors, en réalité, il va fermer sa tronche comme tout le monde. Hein. Croyez-moi, le jour où il va se retrouver, lui ou n'importe qui, devant Dieu tel qu'il est par nature, il va se faire tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. C'est la Bible qui dit ça. Hein. Les bouches seront fermées. Voilà. T'as pas cru en moi ? Mauvaise pioche, il fallait. Alors c'est vrai que parfois je me dis qu'une bonne petite rencontre du quatrième type réglerait le problème, une fois pour toutes. Tu te montres, Seigneur, peu importe la façon, et t'en envoies plein la tronche de tout le monde, comme ça tout le monde croit que t'existes et on passe à autre chose. Malheureusement, pour ceux qui ont eu la chance ou la malchance d'avoir ce genre de théophanie où Dieu leur a apparu, s'est vraiment manifesté face à face, on ne peut pas dire que le résultat était très probant. Ce sont trois exemples que je tire de la Bible, hein, bien sûr. Alors, premier exemple, chronologiquement, même c'est le tout premier, c'est Adam et Ève. C'est surtout intéressant après qu'ils se soient cassés la figure, autrement dit, qu'ils aient désobéi à Dieu, qu'ils aient fait ce que Dieu avait interdit de faire. Je cite le texte de Genèse 3,8. Hein. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, Adam, Ève, où êtes-vous ? Comme s'ils ne savaient pas. Hein. Pédagogie. Hein. Arrêtez de vous cacher, j'ai passé l'âge, hein, cache-cache, ça va vite me fatiguer. Hein. L'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Apparemment, ce n'était pas une bonne nouvelle que Dieu se présente hein, pour Adam et Ève. Ils auraient préféré ne plus le voir du tout. Oui, pourtant, il est là. Hein. Ah non, oui. J'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie. Deuxième exemple, le peuple d'Israël, hein, les plaies d'Égypte, hein, les 10 plaies d'Égypte, c'est quand même pas rien. Et surtout, le Sinaï, quand ils arrivent au bout du désert, qui est la montagne du Sinaï, qui tremble, qui est en feu, Moïse avec son bâton, ouais, devant le peuple, lui n'a pas peur, mais c'est Moïse. Hein. Tous les autres, écoutez, tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, écoutez, hein, là Dieu se montre hein, quand même, il montre qu'il est Dieu. Hein. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi, un homme, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous allons mourir. Et Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher contre lui, que ce n'est pas un gugus Dieu. Ce n'est pas un gros barbu, un peu gâteux, qui dit « c'est bien mon coco, même si tu as fait l'andouille, c'est très bien ». C'est pas ça. Hein. C'est un peu la dynamique ici. Mais le résultat, il s'est montré, tout le monde dit « non, qu'il arrête de se montrer ». On préfère avoir affaire à un mec qui sert d'intermédiaire. C'est intéressant ça quand même. Au troisième exemple, les contemporains de Jésus, Jésus qui est Dieu incarné. Hein. Philippe lui dit, qui est un de ses disciples, hein, « Seigneur, « montre-nous le Père, et cela nous suffira. » Ah ben, j'espère bien. Et Jésus répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que je fais. En résumé, le résultat des manifestations claires de Dieu a été peu probant, mêlant la peur à la désobéissance à l'incrédulité, et l'incrédulité à la mort de Jésus. Voilà. Car comme le dit si bien Ésaïe, c'est le péché de l'homme qui l'empêche de venir à la connaissance de Dieu. Le simple fait d'apparaître ne suffit pas à régler le problème. Car le problème, c'est le cœur de l'homme. Ce n'est pas l'apparition. C'est pour ça que Dieu n'apparaît pas. Il ne se montre pas de manière plus explicite. j'anticipe un petit peu, c'est parce que l'homme n'est pas capable de l'encaisser. Donc quand Dieu se montre, jusqu'ici en tout cas, on ne peut pas dire que ce soit une réussite. Petite parenthèse par rapport au Sinaï, au peuple d'Israël. Oh mon Dieu, oui. En fait, ils ont fait n'importe quoi par après. Le simple fait qu'ils se montrent, ça n'a pas changé leur attitude. Donc à l'analyse, peut-être que Dieu a ses raisons de garder le silence, en tout cas de ne pas se manifester comme les hommes l'attendent. Il a peut-être ses raisons. En faisant référence au fait que Dieu peut garder le silence ou en tout cas se révéler de manière particulière, je ne peux pas, et j'ai déjà raconté ça il y a quelques années, je pense, mais je ne peux pas, à titre personnel, ne pas penser à Agnès. Depuis toute petite, Agnès croyait en Dieu. En fait, Agnès était un feu. Elle pensait à Dieu, elle ne parlait que de Dieu, elle ne voulait vivre que pour Dieu. Elle voulait faire de grandes choses pour Dieu. Elle disait, je la cite, qu'elle voulait aimer Jésus comme personne ne l'avait aimé auparavant. C'est sympa comme objectif de vie. Hein. Elle savait que Jésus était avec elle et elle possédait un sens indéniable de son appel. Elle écrit dans son journal intime, « Mon âme à présent est dans une joie parfaite et une paix profonde. » Sa vie avec Dieu était si profonde et si continue que c'était pour elle un ravissement, une forme d'extase. Elle quitte sa maison et devient missionnaire. Parce qu'elle est bien décidée à tout lui donner. Elle lui a promis de tout lui donner. C'est alors qu'elle arrive sur son champ de mission que Dieu la quitte. Du moins, est-ce comme ça qu'elle le ressent. Et je la cite. « Où est ma foi ?» me suis-je demandé. « Même ici-bas, il n'y a rien à part le vide et les ténèbres. Mon Dieu, combien douloureuse est cette douleur inconnue. Je n'ai plus la foi. » C'est comme ça qu'elle interprète. Hein. Elle essaie de prier. Elle continue, « Je hurlais intérieurement les mots des prières communautaires de mon ordre et faisais de mon mieux pour tirer de chaque mot la douceur qu'il avait à donner. » Mais douceur, mais ma prière continue-t-elle, ma prière n'est plus là désormais. Désormais, je ne prie plus. Alors à l'extérieur, elle travaille, elle sert, elle sourit, mais elle parle de ce sourire comme du masque, un manteau qui recouvre tout. Cette obscurité intérieure, cette sécheresse et cette souffrance due à l'absence, et je le mets entre guillemets, l'absence de Dieu, continuera encore et encore, année après année, pendant plus ou moins 50 ans. C'était là la douleur secrète d'Agnès. Elle n'en parlait qu'à son confident. Mais elle est connue sous un autre nom. 50 ans de vide. Les lettres qui expriment son tourment intérieur sont restées secrètes durant sa vie. Elle avait d'ailleurs demandé qu'elle ne soit pas publiée. Maintenant, quelqu'un d'un peu indélicat a fait publier sa lettre. Et d'un autre côté, je suis content qu'on l'ait fait parce qu'en lisant ça, on commence à un peu sortir des simplismes dans lesquels certains voudraient figer les enfants de Dieu. Il y a une chose étrange qui s'est passée finalement. Sa volonté de tenir face à de tels doutes a apporté du réconfort et de la force à ceux qu'une vie intérieure faite de plénitude n'aurait jamais pu apporter. Elle avait plus de force, plus d'intensité, plus de présence que d'autres sœurs autour d'elle, qui elle avait une vie de prière foisonnante, normale, sans doute extraordinaire. Toute sa vie durant, elle a été une servante des pauvres, et dans son angoisse, elle est devenue missionnaire auprès de ceux qui doutent. Elle est passée d'une simple aide à quelque chose de plus centré sur ceux qui doutaient de Dieu ou qui ne croyaient pas en Dieu. Moi, la question que je me pose quand j'entends ça, et dans le questionnement général qu'on essaye de faire, je me suis dit, mais en fait, qui sommes-nous pour comprendre tout ça? C'est relativement personnel. Hein, mais encore une fois, cela devrait au moins nous permettre d'arrêter d'essayer de mettre tout le monde dans des cases. Ou de dire, si tu fais ça, tu connaîtras une plus grande proximité de Dieu. Apparemment, il n'y a aucun système, aucun mécanisme. J'ai assez enseigné, parlé encore récemment sur les disciplines spirituelles. Hein. Alors, bien entendu, je reviens à mon thème principal, la présence de Dieu. Certains, en ayant accès au journal intime d'Agnès et à ses échanges épistolaires avec son conseil spirituel, qui était un prêtre, on en déduit que c'était là la preuve que Dieu n'existait pas, si même elle ne sentait pas Dieu, si même elle doutait. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'elle n'a jamais eu cette compréhension des choses. Elle doutait, oui, de la présence de Dieu, mais elle n'a jamais douté de l'existence de Dieu. Elle n'a pas rejeté Dieu. Elle n'a pas envoyé tout promener en disant « c'est bon, moi je me suis trompé ». Pas plus qu'elle n'a surmonté la douleur du silence de Dieu. Il y a un truc très interpellant que j'ai lu dans un article il y a quelques semaines. Je fais une petite parenthèse, mais ça me paraît important. Ça recadre un peu avec le fait qu'Agnès, elle, n'est pas laissée tomber. Il y a deux des pasteurs américains qui étaient à la tête des plus grosses églises des États-Unis, des mega churches, comme on les appelle, 25, 30 000, 40 000 membres. Des pasteurs qui étaient âgés d'une trentaine d'années. Ils ont abandonné le ministère et un des deux a fait un livre pour dire que Dieu n'existe pas, en partant de son expérience personnelle. Alors, on peut poser beaucoup de questions par rapport à ça, mais moi, je pense que c'est spécifique à ce qu'on enseigne dans les églises évangéliques. C'est du biberon, ce qu'on enseigne. On s'assied sur quasi 18 siècles d'écrits et de révélations de Dieu à travers des hommes et des femmes qui l'ont servi et à travers les écrits de ces hommes et ces femmes en termes d'expérience, de vie de prière et de vie tout court. On dit tout ça, ça n'a pas d'importance. Soyons, et ça dans l'article qui spécifiait comme que ces églises étaient plutôt pentecôtisantes, c'est du cirque. Il n'y a aucune profondeur là-dedans. On vend des trucs. Enfin, moi, je ne comprends même pas comment on peut partir avec des âneries pareilles, quoi. Je ne comprends pas. L'esbrouf, c'est ce qu'on est en train. Pourquoi est-ce que les gens ne croient pas en Dieu? Parce qu'il ne se manifeste pas. Alors pourquoi est-ce qu'il ferait l'andouille et le gugu, ça fait rouler les gens par terre? Moi, si Dieu est mon père, s'il me dit, ah ben, parce que pour te prouver mon amour, je vais te faire le wow, wow, et à faire aboyer et débiter des âneries, ça, quel père ferait ça avec ses enfants, mes amis? Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'un de ces deux pasteurs, le deuxième, on n'entend plus parler de lui, soit un de ces deux pasteurs a écrit un livre, c'est le premier qu'il a écrit, pour dire Dieu n'existe pas. Enfin, c'est que... Moi, je pense, le fait qu'il fasse ça, ça ne prouve pas qu'il ne soit pas chrétien. Ça prouve qu'on lui a vendu tellement de salades et qu'il a essayé de revendre lui-même la même salade insipide, incolore, inodore, qu'à un moment, c'est plus possible, quoi. Pour tenir le coup, si je peux dire ça comme ça, son directeur de conscience, je dis ça parce que c'est le terme qu'on donne à ceux qui conseillent dans l'Église catholique, je suis le directeur de conscience au moins d'une jeune femme catholique. Moi, je n'aime pas trop comment elle m'appelle comme ça, mais enfin, soit. Moi, je ne tiens pas à la perturber plus que ça n'est nécessaire. En fait, donc, son directeur de conscience, à qui elle ne cachait rien forcément, lui a dit trois choses qu'elle avait besoin d'entendre par rapport à sa situation. Premièrement, on revient dans la réalité des choses, dans le dur. Premièrement, il n'y avait aucun remède humain, aucun truc à ces ténèbres intérieures. Ténèbres intérieures. Ce qui signifiait qu'elle ne devait pas se sentir responsable de cet état. Je prends ça et je le redispose. Ce n'est pas la chance d'avoir ce prêtre comme conseiller spirituel. Vous allez voir un pasteur lambda, d'une église lambda. Tu pries et tu n'entends pas Dieu. Tu ne sens pas Dieu, ta prière est difficile. C'est que tu as quelque chose de mal dans ta vie. Non seulement la personne est malheureuse parce qu'elle ne vit pas ce qu'elle devrait avec Dieu, et en plus, on la culpabilise en plus. Alors de temps en temps, comme l'Ésaïe le dit, on peut avoir un gros truc dans nos vies qui bouche la perspective. Mais ça n'est pas parce que Dieu nous aime moins, c'est parce que nous sommes incapables de voir encore qu'il nous aime, parce qu'il y a un truc dans nos vies qui sert une sorte de nuage, qui fait obstacle. Mais ça ne change pas le positionnement de Dieu par rapport à nous. Il nous aime. Vous pourrez faire l'andouille jusqu'à la fin de votre vie, il vous aime. Ne faites pas l'andouille quand même. Deuxièmement, il a dit à Agnès que ressentir la présence du Christ n'était pas la seule preuve de sa présence. Amen. Et même pas la première. D'ailleurs, Jésus a dit lui-même dans l'Évangile, « À leurs fruits, pas leur certitude, vous reconnaîtrez mes disciples. » Dieu est un Dieu de vérité avant d'être un Dieu de sentiments et d'émotions. D'accord ? On plaque nos émotions sur nos chiens, Oui, Faroït, on y va, on va mettre un petit manteau. Ne faites pas ça avec Dieu. Hein. On projette ce qu'on ressent sur les êtres que l'on aime. Ma mère, même en été, mettait des cagoules. Quoi. Brune. Je détestais le bois. Et en fait, comme à l'époque, j'avais les oreilles décollées, c'était une façon de cacher mes oreilles décollées, parce qu'elle avait honte. C'est pas moi qui me suis fait, hein. Non mais. En d'autres termes, et c'est ça que ce prêtre a essayé de lui faire comprendre, écoutez bien, c'est que ce désir terrible de Dieu qu'avait Agnès en elle et qu'elle n'a jamais perdu constituait un signe sûr de la présence de Dieu dans sa vie. C'est une présence cachée, nous sommes bien d'accord. Mais c'était le signe, ce désir profond qu'elle avait de plus d'intensité, plus de présence, et cette présence lui manquait, c'était un signe de la présence de Dieu dans sa vie. Alors je dis, bah, comment, qu'est-ce que ça veut dire ça, c'est complètement paradoxal. Mes amis, on ne peut pas désirer follement Dieu s'il n'existe pas. Hein. Si pour nous, il n'existe pas. Quand vous crevez de l'absence de Dieu, comme David dans certains psaumes, « Je soupire après toi comme la biche après les courants d'eau », Dieu lui manque, c'est, ben si ce quelque chose lui manque, c'est que ce quelque chose existe. Hein. Donc le désir fait partie du monde créé, il ne faut jamais le perdre ça, de vue. Donc le fait de ne pas avoir un gâteau aux fraises devant vous ne veut pas dire qu'il n'existe pas de gâteau aux fraises. Hein. Moi je vous garantis que les gâteaux aux fraises existent. Hein. Ça veut simplement dire que ce que vous désirez, vous ne le possédez pas en permanence. Troisièmement, la souffrance qu'elle connaissait au quotidien pouvait être rédemptrice, dans le sens où Jésus lui-même a fait l'expérience de l'agonie intérieure provoquée par l'absence de la présence de Dieu. Pourquoi Jésus sur la croix dit-il « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous croyez qu'il se passe quoi sur la croix à ce moment-là ? C'est le noir total, quoi. Il a été abandonné pour que nous ne le soyons plus jamais. Ce n'est pas pour ça que dans notre vie chrétienne, relationnée avec Dieu, nous n'allons pas, à certains moments, connaître ce sentiment, entre guillemets, d'abandon. Donc Agnès s'est accrochée à Dieu au milieu de ses ténèbres, tout comme Jésus le fit. C'est le moment peut-être de citer cette phrase d'Ignace de Loyola, un jésuite, Seigneur, pardonne-moi. Ne doute jamais dans les ténèbres de ce que Dieu t'a montré dans la lumière. Un enfant peut sortir des vacances, 2 semaines de vacances merveilleuses avec son père, où le papa était disponible. Ça a été génial. Et puis il rentre à la maison et le petit fait une bêtise et le petit est puni. C'est le même père. Hein. Et la punition est un acte d'amour aussi. Ça a peut-être des parents aujourd'hui qui devraient apprendre ça. L'éducation des gosses, ce n'est pas de l'élevage de poules. Hein. Tape la bouffe par terre. Donc cette vérité spirituelle est devenue le dernier grand don légué par Mère Teresa au monde. Elle n'a pas rêvé son appel, elle n'a pas rêvé la présence du Christ à ses côtés. Nous ne devons pas douter non plus quand les choses semblent moins faciles, moins évidentes, quand les ténèbres semblent remplacer en nous la lumière ou le doute, la paix, la foi dont j'ai parlé la semaine passée. D'ailleurs, j'ai connu, des passages dans ma vie où Dieu, je vais chercher après avec une lampe torche. Mais c'est bizarre, hein, chaque fois que quelqu'un me demandait des raisons de l'espérance qui était en moi, chaque fois que quelqu'un me disait, mais parle-moi de Dieu, mais personne ne l'a jamais dit comme ça. Hein. Présence ou pas, j'envoyais la sauce, hein, c'est quand même extraordinaire ça. C'était aussi une preuve que Dieu était toujours là. On ne parle jamais de quelqu'un à partir d'une absence, hein, réelle j'entends. Que pouvons-nous bien retirer du silence de Dieu ? Parce qu'apparemment, il faut en retirer quelque chose. Y a-t-il une bonne raison au fait que Dieu ne se montre pas ? Qu'on n'est pas en permanence une sorte de révélation ? Vous savez, comme le plafond de la chapelle Sixtine, en permanence, à la place des nuages. Ça va, il pourrait, au niveau du ciel, plutôt que le ciel bleu ou gris, ou peu importe, ou un ciel de neige, il pourrait mettre le plafond, la chapelle Sixtine, en permanence. Voilà, on serait là. Dieu, l'homme, en permanence. Eh bien, non ! Merci Seigneur, tu ne le fais pas parce que j'aime pas trop, moi, personnellement. Je trouve ça. Enfin, je n'aime pas. Je préfère le non figuratif. Il est à remarquer que bien souvent, nous souhaiterions, nous les chrétiens, obliger les gens à croire en un certain nombre de choses. On aimerait bien posséder des arguments massus, avec une partie d'échec. Alors, le coup suivant, je lui dis « paf !» Et là, en espérant qu'il y a un truc dans leur tête qui va se passer, et « oh mon Dieu, je crois !» Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Nous aimerions par exemple que les philosophes soient confrontés à des arguments si puissants, imaginez avec Michel Onfray par exemple, mon grand copain, que ceci provoquerait une sorte de réverbération dans leur cerveau et qu'à la fin du processus, une voix intérieure leur dise en conclusion que Dieu existe bel et bien et que s'ils refusent encore de l'accepter, ils seront foudroyés sur place. Alors moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de fondamental qu'il faut absolument redire et réenseigner parce que je pense qu'on ne le redit pas assez et qu'on l'enseigne quasi plus. Forcer les gens à admettre que Dieu existe ne résout pas vraiment le problème fondamental de l'homme, qui est son cœur. De toute façon, tous les chrétiens que je connais, qui sont passés par la nouvelle naissance, ils sont passés par ce phénomène, par ce processus. Quelle est la première phase du processus qui mène vraiment à ce moment où Dieu rentre dans la vie d'un homme ? Ça s'appelle la repentance. Et ça part de quoi, la repentance ? Ça repose sur quoi ? Sur la mise en lumière d'en haut de la réalité d'ici-bas. Autrement dit, je suis en dessous de tout. En tant qu'être humain, j'ai perdu ma trajectoire de vie initiale que Dieu voulait pour moi. Être parfaitement l'image de Dieu sur cette terre. Autrement dit, pourquoi les hommes, même si Dieu se manifeste en permanence, pourquoi les hommes n'y croiraient pas plus ? Tout simplement parce que ça ne les intéresse pas d'y croire, ce serait trop engageant d'y croire. Parce qu'ils devraient changer. Et les hommes n'ont pas envie de changer. Parce que leur cœur est dur. Même si l'humanité dans son ensemble reconnaissait l'existence de Dieu, le problème du cœur de l'homme resterait le même. J'ai déjà employé cette image, mais je vais la renvoyer quand même pour appuyer ce que je viens de dire. Un type roule à 180 sur l'autoroute. Je sais bien que ce n'est pas jamais votre cas. Un type roule à 180 sur l'autoroute et est donc en excès de vitesse. Il aperçoit une voiture de police. Il fait quoi ? Il freine. Je crois qu'il freine parce qu'il s'est senti subitement... je ne sais pas, il y a un amour incommensurable pour le code de la route qui s'est emparé de lui. Oh, que j'aime le code de la route ! Et hop, je descends à 120. Mais bien sûr que non. C'est la peur du gendarme qui le fait freiner. C'est la peur des conséquences qui le fait freiner. Son cœur n'a pas changé, hein, mes amis. Le lendemain, il n'y a plus de flics à cet endroit-là. Il sera de nouveau à 180. Pire, c'est les flics l'arrêtent pour excès de vitesse. Il pensera dans son fort intérieur, il ne sera probablement pas assez courageux pour le dire tout, mais en lui-même, ils penseraient qu'ils ne font ça que pour atteindre leur quota de PV. Ce n'est pas mon 180 qui est le problème. C'est parce qu'ils ont besoin de faire rentrer des sous dans les caisses. Hop, j'occulte mon problème. Le problème, c'est que je roule à 180. C'est ça le problème. Et que je n'aurais pas d'ennui avec les flics si je n'étais pas à 180. C'est moi qui suis une andouille. Mais on ne se contente pas de dire « Oh, je suis une andouille. On m'a pris en flagrant délit d'andouille. » Non, 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 non. Je ne suis pas une andouille. Ce n'est pas moi le problème. C'est comme ça que fonctionne le cœur de l'homme sans Dieu. Et puis, il va aller plus loin. Pff, vous n'avez rien d'autre à faire. Il n'y a pas des bandits à arrêter. Que vous arrêtez des braves gens comme moi. Braves gens, à 180, vous mettez vraiment la vie des autres en danger. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui se passe dans l'exemple que je viens de donner, c'est que nos ténèbres intérieures et nos préoccupations personnelles nous empêchent de voir, dans l'exemple que je viens de citer, les policiers en question, objectivement, pour ce qu'ils sont. Des policiers qui font respecter le code de la route. Point. Period, diraient les Anglais. C'est pour Olivier, qui adore l'anglais. Donc nous projetons sur ces policiers à ce moment-là nos peurs, nos désirs, notre égoïsme et notre obscurité. Toutes ces choses agissent comme autant de filtres dans la façon dont nous percevons les êtres humains. Dans l'occurrence de mon exemple, ces policiers. Tout ce que nous sommes, par le péché qui nous habite, place des filtres On ne voit pas ces gens simplement là. Vous êtes un danger public, monsieur. Vous allez prendre un PV, quoi. Ou un retrait de permis. 180, non, c'est le retrait de permis. Oui, monsieur, je suis désolé, vous avez raison. Voilà, c'est normal. Okay. Ce n'est pas ça. Les filtres qui sont en nous vont commencer à rendre responsables les policiers. Donc c'est pour ça que même si Dieu se plantait devant un être humain, ça ne change rien. Cette présence de Dieu, comme les non-croyants l'invoquent parfois. Mais s'il y avait un Dieu, il devrait. Enfin, dis ça à papa. Hein. Oui, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas du trou. Mais il n'y aurait pas toi non plus, hein, parce que tu es un mauvais père. Ah, tu n'es pas pédophile, hein, mais tu es un mauvais père quand même. Hein. Tu laisses tout faire, tu es un mauvais père. Donc tu passeras à la trappe. Donc quand tu appelles le jugement de Dieu sur la tête de quelqu'un d'autre, c'est sur la tienne que tu l'invoques avec. Hein. Mais on ne pense pas à ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes meilleurs que les autres. Et ça aussi, c'est l'expression de notre péché intérieur. Donc, pense à mes policiers qui arrêtent quelqu'un sur l'autoroute. Multipliez cette dynamique par 100 ou 1000 et vous commencerez à entrevoir le problème qu'a Dieu avec l'homme. La Bible, d'ailleurs, en Exode 33, nous dit « Personne ne peut voir la face de Dieu comme il est. Hein, personne ne peut. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça signifie que nous ne pouvons pas voir Dieu tel qu'il est. Nous en sommes totalement incapables. Parce que nous projetons inévitablement, les expressions de notre nature déchue sur lui. C'est la raison pour laquelle le simple fait d'amener les gens à croire à l'existence de Dieu ou du surnaturel ne sert à rien. Les gens peuvent croire au surnaturel et continuer à vivre des vies totalement immorales et spirituellement désastreuses. C'est Jacques qui l'exprime le mieux pour moi. C'est Jacques, hein, c'est rentre dedans. Hein. Tu crois qu'il y a un Dieu ? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, ils tremblent. Allez, hop. Les démons aussi croient en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple. Hein. Est-ce que ces démons, dont parle Jacques, croient que Dieu est bon et juste et plein d'amour ? Non. Ces démons croient-ils les mêmes choses à propos de Dieu que celles que croyait Jésus à propos de son Père ? Absolument pas. Pourtant, ils croient. Ils ne peuvent pas. Eux, ils ont Dieu en réel devant eux. Eux, ils voient, enfin, plus de maintenant, ils ont été virés, mais toute une période, malgré leur désobéissance, malgré le fait qu'ils ont fait sécession, c'est les sudistes, hein, les démons. Ils ont le droit que vos confédérés aient planté dans le dos. Ouais, bon, soit. Ils le voient en permanence comme il est. Vraiment, pour ça, ils peuvent pas faire autrement, croire en Dieu. Il a tout le temps, dans l'éternité, avec eux. Hein, paf. Ça ne change pas leur cœur non plus. Hein. Dieu semble donc se présenter à nous de telle manière que les personnes désirant le rejeter de leur vie puissent le faire. Il semble qu'il leur laisse de l'espace pour le faire, ou pour le dire de façon plus directe, les gens qui ne veulent pas qu'il y ait un Dieu, qui ne veulent pas qu'il y ait un Dieu, trouveront toujours un moyen de croire qu'il n'y en a pas. Mais ça vient d'où ? De leur cœur. Pour terminer, pour aujourd'hui, ce premier point concernant les raisons de douter, je citerai le philosophe et mathématicien chrétien Blaise Pascal, qui disait « Il y a assez de lumière pour croire que Dieu existe, et assez d'obscurité pour ceux qui désirent être persuadés du contraire. » C'est normal, mes amis, autrement il n'y aurait pas besoin de la foi. Heureux ceux qui croient sans avoir, voilà, que le Seigneur bénisse sa parole et surtout qu'il vous bénisse. Amen.